Good Morning Business. Le débat.
Comment désmicardiser les salaires? On profite de ce rapport sur l'impact des exonérations de charges sur les salaires, qui finalement n'a pas eu d'effet en termes de pouvoir d'achat et de niveau de rémunération. Des efforts, en revanche, en matière de lutte contre le chômage, certainement. Comment on fait pour aller plus loin, Nicolas?
C'est un rapport d'étape. Je pense que s'ils ont publié un rapport d'étape, c'est pour dire tout de suite, rêvez pas, on ne va pas vous donner une martingale gagnante géniale au mois de juin. Non, le truc, c'est qu'ils vous expliquent, ils appellent ça la tuyauterie
socio-fiscale,
j'adore. Et ils ajoutent, tout devra se faire de manière prudente et progressive. Et qu'à prélèvement constant et à budget constant, il n'y a pas de solution.
Ah, bah
et que s'il y a des solutions...
Notre invité dans un instant.
Non, mais c'est vraiment ça. En fait, je vais vous le faire court. Le message...
Je ne veux rien faire.
À budget constant, sans changement de prélèvement obligatoire, si tu n'acceptes pas d'avoir des perdants d'un côté et des gagnants de l'autre, on a horreur des perdants-gagnants dans les choix politiques. Il n'y a pas de solution. Et en fait, le pré-rapport est là pour dire, comme dirait très bien Jean-Marc, assez. Ça fait 30 ans qu'on allège les cotisations pour trouver un job pour les non-qualifiés. On est au bout du bout définitivement de ce processus. Quand vous avez zéro charge patronale à un SMIC, enfin, il reste les cotises accidents du travail, c'est terminé, quoi. On est au bout du système. On ne peut plus tirer sur cette corde-là. Alors, ils reprennent l'idée que pour augmenter quelqu'un de 100 euros, l'employeur devra sortir jusqu'à 500 euros. Ouais. Sauf que quand t'as donné 100 euros à ton salarié, dès qu'il sort de un SMIC, tout d'un coup, il a de l'IR. Alors, il n'a pas 100 euros, il a 100 euros moins l'IR. Et puis après, il a moins de prime d'activité. Donc, il a 100 euros, moins l'impôt sur le revenu, moins la prime d'activité. Donc, pour qu'il ait 100 euros, vrai 100 euros dans sa pocket, tu dois lui en donner 200. Il n'y a pas de solution. Le choc est plus on est vers les bas salaires, plus on est au SMIC, plus le choc est violent. Et c'est là où le sujet des non-qualifiés se pose. Et il parle même de la trappe à promotion. En plus de la trappe à bas salaire. Ça sert à quoi que je me forme? Parce que de toute façon, je vais me former, et puis cette formation, elle aura peu d'impact sur mon, elle a pas énormément d'effet sur la boîte qui m'emploie et mon employeur, donc il va pas me donner beaucoup, beaucoup plus parce que je me suis formé. Donc c'est même pas incitatif. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, et là, il y a vraiment des chiffres nouveaux. À un SMIC, les cotises patronales pèsent moins de 7%.
Non, c'est rien.
À 1,6. C'est 40%. Ouais. C'est presque 6 fois plus. Et alors après, en fait, l'effet est moins violent. Quand t'arrives à 3,5 SMIC, t'es passé de 40 à 45%. Il n'y a pas de bonne solution. On a créé un truc. Et alors, allez voir les Échos. Ils ont fait un graphique depuis 93, début des allègements
bon
de cotises. Non mais, oui, très bon journal. Les gens savent pourquoi vous dites ça?
Non.
Bon, ben, faudra leur dire.
On leur dira à 9h.
Ah, je termine parce que. Et,
oh là oui, là, parce qu'il y a
un grand ami.
Non mais, je termine, c'est que du visuel. Vous allez dans la page des Échos qui vous font le résumé du pré-rapport Bozio-Vasmer. Et là, vous avez c'est un journal sérieux, n'est-ce pas, les Échos? Et ils font un graphique sur comment on a orchestré tout ça depuis 93. Tu vois le graphique, tu passes du temps dessus, tu n'y piges rien. Et bien, la complexité du graphique est révélatrice de la complexité d'un système. Pour dénouer la tuyauterie socio-fiscale, et ce pré-rapport est là pour dire... Mesdames et messieurs, Madame Borne, n'attendez pas de miracle. Madame Borne qui avait commandé le rapport, n'attendez pas de miracle, il n'y en aura pas de miracle.
Il n'y a pas de miracle, on ne peut rien faire pour la désmicardisation.
Je crois que ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est qu'effectivement, le mot de désmicardisation a été lancé comme un slogan, sans qu'on sache exactement. Ce que tend le gouvernement derrière tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait que, Nicolas vient de le rappeler, Madame Borne avait lancé ce groupe d'études, avait demandé ce rapport, non pas sur la base de la désmicardisation, mais sur la base d'une analyse des bas salaires, de l'avenir de la prime d'activité qui a été introduite depuis 1993, justement pour éviter cette complexité artificielle autour du SMIC et autour des allègements de charges, et puis sur le fait aussi qu'à l'époque, quand on regarde ce que disait Madame Borne, il y a le fait qu'on ne peut pas avoir comme objectif de supprimer systématiquement des recettes à la sécurité sociale qui est menacée sur le plan de son équilibre financier. Alors après, je pense que effectivement, il n'y a pas de bonne solution en sens que, moi je pense qu'il y a une bonne solution, mais une solution qui est radicale. Ce que disait d'ailleurs dans son dernier rapport, qui était le dernier qu'a signé Gilbert Sept en tant que président du comité des experts sur le SMIC. Il disait, au stade où nous en sommes arrivés, il n'y a plus que trois solutions. La première, c'est d'abandonner toute indexation du SMIC et de considérer que ça doit être une décision politique, négociée avec les partenaires sociaux au cas par cas, avec le risque qu'effectivement, il y ait des grèves, des mouvements sociaux, des pressions pour obtenir plus que ce que le gouvernement n'est prêt à consentir. La deuxième, c'est de changer le mode d'indexation, puisque ce mode d'indexation repose à la fois sur l'inflation et sur le salaire horaire de base des ouvriers et des employés, le SHBOE, comme on dit dans les statistiques de l'INSEE. Bon, on peut changer effectivement le mode d'indexation, mais on retrouvera toujours le fait que à partir du moment où on indexe, si les salaires qui sont les salaires immédiatement au-dessus ne connaissent pas la même indexation, il y a un effet de tassement, il y a un effet de d'écrasement de la hiérarchie. Puis le troisième, c'est d'essayer d'avoir une sorte de négociation sur des bases, cette fois-ci, qui seraient des bases interprofessionnelles, où le gouvernement ne s'en mêle pas.
Ah,
on
ouais.
demande à chaque négociation. Moi, je pense que la bonne solution...
C'est la troisième.
C'est la troisième, et de constater que effectivement, la notion de salaire telle qu'on pouvait l'avoir dans les années 90 quand on a commencé ces politiques d'allègement de charges, c'est-à-dire salaire comme étant un élément clé de la détermination du niveau d'emploi, c'est toujours vrai, mais le niveau de chômage n'est plus exactement le même qu'à l'époque. Et deuxième élément, je pense quand même qu'on a une évolution des revenus et des qui est de moins en moins vers le salaire automatique, de plus en plus vers la négociation individuelle de son revenu, y compris sous forme d'auto-entrepreneur.
Merci à tous les deux.